Les haltes, le vrai gros problème que je vois à présent, c'est tout simplement ce qu'on a pu apercevoir le 10-11 octobre avec quand il y a eu cet énorme krach nocturne. On avait eu moins 20 milliards à peu près, 1,6 million de traders liquidés. Et en gros, ce qui m'a choqué à cette époque, eh bien, c'est tout simplement de voir qu'il n'y avait plus la liquidité disponible à un instant T sur les haltes pour les empêcher virtuellement d'aller à zéro, ce qu'a presque atteint Atom Cosmos sur Binance, on le rappelle. Donc vraiment, aujourd'hui, pour moi, la fragmentation de la liquidité, c'est un réel problème et je pense qu'il y a beaucoup trop d'altcoins pour que on puisse avoir une altseason comme on a pu voir par le passé. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission 7 du Unchained Sapiens Report The Blockchain Insider où on essaie de décrypter avec Adrien dans les meilleures dispositions possibles avec les informations fragmentaires que nous avons actuellement la possibilité de ce potentiel bear market. Alors, est-ce que c'est un peu trop tôt pour le dire? Eh bien, Adrien, tu vas nous dire dans quelques instants où en sont ces fameuses zones d'un point de vue on-chain. On n'est toujours pas là pour faire de la cartomancie, bien entendu. On essaie de rester le plus factuel et pragmatique possible pour vous offrir à la fois le déroulé si ça se passe pas bien, le déroulé neutre si ça se passe moyen bien et que derrière on arrive à raccrocher les wagons et le scénario potentiel où, eh bien, le cycle de 4 ans ne serait plus et 2026 nous offrirait à nouveau une poussée haussière, chose qui, jusqu'ici, n'est jamais arrivé sur ce fameux grand cycle de 4 ans, mais qui pourrait peut-être, vu la redistribution des cartes depuis ces 2 dernières années avec l'arrivée de BlackRock et des ETF à la table, pourrait tout à fait ainsi arriver. Donc, super ravi de te retrouver, Adrien, et on part pour ce 7e épisode.
Yes, bah écoute, très content de te retrouver aussi, CM. L'objectif, comme tu l'as dit, c'est déjà de voir si par rapport à notre dernier format de la semaine, enfin d'il y a 2 semaines, pardon, voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et comme tu l'as dit, est-ce qu'on peut déjà parler de bear market ou pas? Alors c'est vrai que finalement, c'est un peu un débat aussi qu'il y a, je trouve, un peu sur X typiquement. Qu'est-ce qu'un bear market? Il y en a qui disent que évidemment c'est une longue traversée du désert pendant plusieurs mois. Il y en a d'autres qui disent que c'est juste quand est-ce qu'on est dans une tendance baissière. Donc selon l'un ou l'autre, c'est oui, parfois non. Mais on va essayer de se baser quand même sur des comportements, on va dire, historiques du prix, puisque vous le savez, au niveau de l'analyse on-chain, on tente de repérer ce qui se passe au niveau du comportement des investisseurs. Et lorsqu'on repère des situations qui sont similaires à ce qui a pu se passer en début 2018 ou début 2022, lors justement des 2 derniers bear markets, essayer de repérer, voilà, si on y est ou pas, ou quels sont les derniers niveaux support à tenir s'il en reste, ou ceux à reprendre, à reconquérir pour vraiment essayer de repasser dans une tendance haussière. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on n'est pas plutôt dans cette optique de, comme on en a discuté en off, de savoir se positionner maintenant assez efficacement, ou même être en mode protection de capital pour ceux qui en ont toujours, pour ceux qui parfois peuvent aussi ne pas s'être dérisqués un peu plus tôt sur certains tops ou même tout simplement même au-dessus des 100 000 dollars ou actuellement. Ça va être là, je trouve, toute la question et je trouve un peu ce côté assez intéressant de savoir quoi faire maintenant de son argent, de son capital, puisqu'encore une fois, c'est un peu notre outil de travail aussi, entre guillemets, quelque chose qu'il faut quand même qu'on protège, puisqu'on l'a quand même gagné à travers nos différents emplois, nos différents investissements, et donc c'est quelque chose qu'il faut quand même, voilà, faut quand même savoir quoi faire.
Et on part immédiatement donc sur le pourcent du supply de Bitcoin en profit. Et on voit, en tout cas, c'est l'avis d'un, on va dire, un néophyte en analyse on-chain de mon côté, puisque toi, tu es certainement immensément plus calé que moi, qu'on a perdu potentiellement cette petite zone avec le liseré bleu là, dans lequel on était encore 15 jours en arrière et que tu mettais souvent en avant. Donc, pour toi, qu'est-ce que cela induit pour la suite?
Mais écoute, c'est vrai qu'on est passé sous un niveau historique de nombre de BTC qui se retrouvent dans le rouge. Alors, ça ne veut pas forcément, on va pas crier au loup forcément, puisqu'encore une fois, on peut trouver des bitcoins qui sont en perte de 1%. Forcément, ça ne va pas faire mal au marché. Maintenant, dans une situation dans laquelle on est, où globalement, on a envie de voir s'il y a beaucoup trop d'investisseurs qui se retrouvent en perte, mais des pertes assez conséquentes, au point où justement beaucoup vont vouloir vendre et quitter ce marché au plus vite, potentiellement même des hodlers historiques, donc des investisseurs de très long terme qui commencent à vouloir à comprendre que peut-être que la situation se aille de pire en pire, et plutôt se dire que voilà, c'est peut-être le moment de sortir, et bien on est sur ce point, j'ai même plus envie de dire pivot, puisque là on se retrouve beaucoup plus dans une situation où va falloir que tous ceux qui restent haussiers montrent qu'ils ont envie d'être haussiers et que ce ne soit pas juste une phrase que l'on dit, mais plutôt un comportement que l'on observe, puisque là, en fait, c'est maintenant 35% maintenant de Bitcoin en perte sur le marché, correspondent à ces fameuses zones dont on ne voulait pas voir. C'est vrai qu'on en parle depuis le début, je crois, que de notre collaboration sur nos duos. C'est une zone, en fait, qui correspond, regardez, à cette tranche entre les 60 et les 75% de BTC en profit qui, bah, comme vous le voyez, c'était plutôt début 2022, lors du fameux début de bear du cycle précédent ou même celui de début 2018 après justement l'euphorie de 2017. L'objectif, ça va être un peu de soit passer outre les statistiques et faire un beau rebond comme c'est déjà arrivé en juillet 2021, j'allais te dire, mais c'est un peu le seul cas de figure où c'est déjà arrivé. Ou alors, bah justement, si on remarque que généralement, lorsqu'on revient, parce que bon, on imagine qu'on ne va pas partir à la cave en ligne droite et qu'on aura forcément ces fameux rebonds du chat mort qui peuvent arriver, ce dead cat bounce, eh bien en fait, on peut voir justement une partie de la supply qui revient en profit. Et généralement, en fait, c'est sur ces zones-là. Est-ce que cette fois, on va voir en fait finalement des investisseurs qui vont préférer se dérisquer dès que possible? Et c'est exactement ce que l'on avait vu en 2018 et 2021, où à chaque fois on repassait très brièvement sur cette zone qui généralement est positive, mais on repartait très vite à la cave puisque évidemment ces investisseurs partaient du marché et ne voulaient plus en entendre parler. Donc là, on est vraiment dans cette situation qu'on ne voulait pas forcément voir, mais dans laquelle on est, encore une fois, on ne peut que subir le marché en s'y préparant du mieux possible. Et donc là, on est sur ce cas de figure.
Et en termes de prix, on peut rajouter que ça représenterait potentiellement, alors comme d'habitude, je vais donner des zones, puisque moi, je m'en réfère pas mal aussi à l'analyse technique, mais en gros, ça pourrait donner une zone comprise pour le point bas intermédiaire autour de 80-83 000, grand maximum 75 000, mais ça serait quand même assez étonnant d'y aller en ligne droite. Et donc, on pourrait avoir potentiellement, avant de se re-enfoncer derrière, si c'est la continuation baissière qui voit sa suite en 2026, faire un rebond de 80-85, on a déjà touché 88-89, donc on était déjà pas si loin, vers les 100 000, peut-être 108 000. Et si toute cette zone, ce cluster 100-108, vient à faire office à nouveau de résistance et n'est pas repris durablement, là, ça ouvrira la porte au bear market en tant que tel. Et donc, ensuite, la véritable zone de démarcation additionnelle serait autour des 75 000 du point bas de Trump, des tarifs d'avril 2025 de cette année. Et ensuite, si on passe là-dessous, ça sera l'accélération finale où on aura la vraie capitulation, un peu comme à l'époque, on avait pu voir aussi de 2017-2018, quand on avait eu la fameuse latéralisation autour de 6000 pendant pas mal de temps, et derrière ce grand décrochage abrupt fin 2018 de 6000 à 3000. Et ça, c'est vraiment spécifique à la fin des bear markets, quand il y a le gros de la capitulation, le dur. Ça se fait très vite, très fort, et ensuite, ça met des semaines, des mois à récupérer. On a l'impression qu'il ne se passe plus rien, plus aucun bruit. Et là, voilà, on pose le bottom et c'est reparti pour un tour. Donc, pour l'instant, de mon côté, comme d'habitude, je vais me faire l'avocat du diable. Je privilégie, bien entendu, au vu des cassures structurelles, un potentiel de plus en plus important de bear market pour la suite, pour les prochains mois. Mais comme d'habitude, il ne faut pas insulter l'avenir et rester super humble face à tout ça. Autant début 2026, on repartira pour un tour positif. Et c'est ce que je nous espère pour tous, pour avoir des développements comme ça qui sont plus heureux que malheureux, puisque ça reste des périodes, peu importe la taille de son portefeuille, qui sont vachement désagréables.
C'est clair. Après, c'est vrai que, comme tu le dis, il y a ce pattern, mine de rien, qui nous laisse quelques mois, j'ai envie de... En tout cas, historiquement parlant, encore une fois, c'est vrai qu'autant 2018 que 2022, on a ces plusieurs mois où on peut se sortir du marché et attendre une vraie capitulation digne de ce nom. Donc, on verra si ça va être le cas aujourd'hui. Mais c'est marrant parce que c'est vrai que les zones dont tu parles correspondent, encore une fois, à ces fameuses grosses zones d'accumulation. Alors, l'objectif, c'est non plus de se baser sur nos fameux détenteurs court terme, puisque là, globalement, ils sont pratiquement tous en perte. Ils avaient tous mine de rien, accumulé au-dessus des $100,000. Parce que ça faisait forcément, depuis le mois de juin, on n'était pas passé sous les $100,000. Donc, beaucoup d'investisseurs qui, récemment, ou qui ont FOMO, sont vraiment dans le rouge. Mais du coup, notre dernier mur porteur, c'est celui des détenteurs long terme. Et ici, en termes d'historique, généralement, dès qu'ils se retrouvent entre 15-20% d'entre eux en perte, ça sent justement le roussi et puis bah, ça sent le sapin. Donc on est plutôt dans cette situation où là, à l'heure où l'on tourne cette vidéo, on est autour des 92 000 $. On est pile poil, comme vous le voyez ici, sur cette tranche des 15% des investisseurs long terme qui sont en perte. Donc des jeunes investisseurs long terme, mais quand même. Et donc on est pile poil dessus. Alors pourquoi c'est assez intéressant de voir que moi j'ai cette zone, en tout cas sur les 82 000-83 000 $, comme tu l'as mentionné. Parce qu'en fait, ça correspond déjà à plusieurs choses. C'est ce fameux niveau qu'on appelle le true min price en analyse on-chain, qui correspond, si vous voulez, au prix juste de tous les bitcoins qui ont été un peu acquis sur les deux dernières années. Donc une sorte de moyen de voir quel est le coût moyen des investisseurs, on va dire, actifs sur le réseau sur ce bull run. Et donc, justement, on n'a pas envie de passer en dessous parce que ça veut dire que bah, forcément, on met tout le monde à mal. Et si on repasse sur ces niveaux-là, bah, comme vous le voyez, on est plus sur du 20% des investisseurs long terme en perte. Et après, et là, visuellement, c'est très parlant, on voit très bien qu'on a une poche d'air où il n'y a plus personne ou très peu de monde qui a accumulé sur ces niveaux-là. Et donc, s'il y a très peu de monde, eh bien, on n'aura pas grand. Enfin, il n'y aura personne qui voudra les défendre, ces niveaux. Et on va peut-être forcément capituler beaucoup plus vite à l'idée de se dire bon, bah, OK, le prochain gros cluster d'accumulation, il est aux 70 000 $, c'est-à-dire qu'entre deux, mais il ne se passe pas forcément grand-chose. Donc, vraiment, ce niveau-là est pour moi extrêmement primordial. Ce qui corrobore, donc, comme je vous l'avais dit, avec ce true min price, qui est justement ici cette ligne bleue. Et comme tu l'as dit, alors, sans vouloir prendre ce niveau ici en rouge dont on parlait pareil dans toutes les précédentes vidéos, qui était le coût moyen d'acquisition des détenteurs court terme, qu'il fallait absolument, pas forcément pas casser, mais qu'il fallait absolument reprendre pour retrouver une tendance haussière court-termiste. On en est quand même très loin aujourd'hui, on est à plus de 17 000 $ de cette zone-là. Donc on va un peu couper le bruit et l'éteindre et voir les prochaines zones qui nous intéressent. Donc ce fameux potentiel rebond ici, qui comme vous le voyez, et je ne vais pas montrer 2018 parce que c'est exactement le même pattern. Quand on est dans cette phase de doute et de potentiel début de bear market, on teste cette bande bleue. On la teste, on rebondit et on rebondit très souvent sur cette bande jaune qui s'appelle le MVRV min, qui correspond à cet état où les investisseurs sont ni trop en perte ni trop en profit. Et donc généralement, si on part en bear market, dès qu'on revient en général à break-even, on a envie de sortir du marché, partir et se dire « Ok, je reviendrai quand bah, ce sera l'occasion de réinvestir. » Et regardez ce qui s'est passé en 2022, c'est exactement ce qui se passait. On touchait cette bande bleue, on retouchait cette fois comme d'une résistance cette bande jaune, bande bleue, bande jaune, bande bleue, bande jaune. Et cette fois, la bande bleue ne tenait plus comme d'un support et on est parti vraiment dans les tréfonds cette fois du bear market. Et on est passé de 40 000 à 15 000 dans l'espace de 6-8 mois. Donc, c'est exactement en fait ce que l'on va surveiller aujourd'hui. Si on n'arrive pas à reprendre cette zone sur les 100 000 $ à peu près, donc en plus, prix psychologique, en plus, c'est là où au niveau des détenteurs à long terme, ça irait quand même beaucoup mieux puisque je vous rappelle qu'ils ont, hop, vers les 100 000 $, ils ne seraient plus qu'à 5% en perte. Donc, vraiment, on enlèverait beaucoup de pression, de capitulation même de leur part. Et en plus de ça, bah, forcément, reprendre ces niveaux correspondrait un peu au même pattern que nous avions eu autant à l'été 2021, autant à l'été 2024, et que le printemps 2025. Donc le but, c'est vraiment essayer de le reprendre, auquel cas, si vraiment on transige sur ces niveaux-là, typiquement, et c'est ce que l'on avait parlé, je crois, dans la vidéo d'il y a deux semaines, reprendre, enfin en tout cas retoucher cette bande jaune ici, donc vers les 100 000 $, si jamais on rebondit dessus et qu'on n'arrive vraiment pas à le reconquérir, c'est un excellent moyen de continuer de se dérisquer, ou potentiellement de voilà, prendre ses clics et ses claques, j'ai bien envie de dire, si on n'arrive pas à le reprendre, ne m'en voulez pas si vous vendez sur ces niveaux, mais qu'on le reconquit, bah forcément, on repasse un peu plus dans des probabilités un peu plus haussières. Donc, vraiment, à faire attention à ce pattern-là. Mais si c'est comme ici, où à chaque fois qu'on les retouche, on rebondit, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de vendeurs sur ces niveaux-là, beaucoup de gens qui sortent du marché, bah peut-être que ce sera l'occasion de faire de même. Et pour ceux qui n'ont pas pris des profits sur ce cycle ou même protégé leur capital, ça peut être un très bon moyen. Mais en tout cas, de mon point de vue, évidemment, ça reste de mon point de vue. Si on tombe sur les 82 ou même une petite mèche en dessous, comme c'est arrivé ici en 2022, ça ne va pas être l'occasion de paniquer, parce qu'à mon avis, on ne va pas tomber en ligne droite. On a quand même beaucoup de forces acheteuses encore sur le marché. Mais globalement, de se dire, OK, par contre, au prochain rebond, je ne vais pas faire jouer mes émotions et peut-être que je vais sortir sur ces niveaux-là. ce qui peut être intéressant de jouer ici.
Tout à fait d'accord avec toi, et c'est ce qu'on se disait en off à l'instant, on pourrait avoir un yo-yo comme ça qui se fait pendant un certain temps entre les 80 85 000, peut-être même les 88 hein, qui ont été touchés hier ou avant-hier, ouais. Et par la suite les fameux 100 et quelques 1000, et c'est là où tout va se jouer pour la suite. Donc ça aussi, au plus on baisse rapidement là en novembre, au plus ça pourrait avoir lieu en décembre, je ne sais pas exactement pourquoi, c'est un peu là aussi un genre de croyance populaire des marchés. Il y a ce qu'on appelle le Santa Claus Rally, c'est-à-dire la troisième semaine de décembre. En général, d'un seul coup, il y a tout qui pump, même le marché américain. On ne sait pas trop pourquoi, mais ça a tendance à arriver avant derrière, bien entendu, de redescendre tout aussi sec et de revenir au niveau sur lesquels les marchés étaient. Donc aujourd'hui, je pense que c'est intéressant effectivement d'avoir en tête ce fameux Truman Price autour de 82 000. Rappelons également qu'à 75-76, on a les points bas des tarifs de Trump d'avril 2025. Donc quand on vous dit 82, si ça fait une mèche à 75, voilà, c'est tout à fait de l'ordre du possible. L'essentiel c'est derrière, c'est de récupérer ces zones et de voir de la réaction. Puisque aujourd'hui, si on vient sous les 80 000, je pense que 75, 80, même les fameux 82 là qu'on voit ici affichés à l'écran, ça va permettre à ceux qui jouent le court moyen terme de se projeter à la fois sur un rebond à 100 et sur un rebond potentiel à 125. Et ça, ça va commencer à intéresser les spéculateurs court terme. Alors que c'est quand ça. On est à 100, 105, 110, les gars, ils se disent, bon, 125, voilà, ça ne nous intéresse pas des masses. Donc, j'essaie toujours aussi de me mettre dans la peau d'investisseurs long terme que nous sommes. Donc nous, on s'en fout. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure en off avant qu'on introduise cette émission. Aujourd'hui, quelqu'un qui commence à investir en DCA pour du long terme à 90 000, son seuil psychologique, c'est de se dire « Ok, je risque de perdre en bear market moins 40, moins 50, quelque chose dans ces eaux-là. » Donc tout ce qui va se passer aujourd'hui entre 50 000 et 90 000 est mon terrain de jeu pour faire du DCA pour la prochaine année, si on part en bear market. Et à partir du moment où on s'est fait cette représentation psychologique de se dire bah, « Ok, ça peut mal se passer, on peut faire une année à moins 40 et comment je me comporte si ça arrive ? Est-ce que j'ai du cash ? Est-ce que j'ai prévu de recharger ? Comment j'articule tout ça ?» Normalement, ça se déroule excessivement bien. On n'est pas complètement cloué au pilori, on se sent pas mal, on se sent pas crevé avec son bag qui petit à petit déroule à la baisse et on est pétrifié, on ne sait absolument plus quoi faire. Donc au plus, vous avez un plan pour aujourd'hui, au mieux, vous vivrez demain. Et je pense qu'aujourd'hui, on vous a donné quand même pas mal de zones qui vous permettront justement de naviguer un potentiel bear market au mieux.
Exactement. Puis en plus, c'est vrai que cette zone des 50K, donc en fait, il faut savoir qu'on se base aussi, là encore, sur le comportement des investisseurs et par exemple sur le prix moyen d'achat, mais de tout BTC confondu. Aujourd'hui, il est estimé aux 56 000 dollars. Donc, zone effectivement intéressante. Il faut savoir que dans les deux précédents bear market, on est descendu juste en dessous. Regardez ici justement avec cette bande violette. En 2018, on était juste en dessous, même au crash Covid, et bien sûr lors du bottom de 2022. Donc après, qu'on achète évidemment les 16 000 ou les 19 000, vous en conviendrez que ce n'est pas forcément un écart énorme. Je pense qu'on aurait tous été contents de poser la maison à ce moment-là quand on sait maintenant ce qui s'est passé ces dernières années. Donc typiquement, qu'on tombe aux 50, 56, qu'on touche les 60, on saura très bien que c'est une zone qui va être historiquement défendue puisque évidemment, le consensus général ne voudra pas qu'on tombe bien trop en dessous, puisque là, sinon, en fait, là, c'est vraiment même plus la cascade, mais c'est les chutes du Niagara et ce n'est pas forcément ce que l'on souhaite pour même, j'ai envie de vous dire, l'avenir de Bitcoin. Parce qu'encore une fois, il y a les investisseurs, mais il y a aussi les mineurs. Maintenant, il y a les institutions, fonds d'investissement et autres. Donc, évidemment, on va se baser beaucoup là-dessus. En plus, on a, sur cette fameuse zone des 75K dont tu parles, on a aussi le coût moyen des ETF, des détenteurs d'ETF, qui est autour des 83 000 pour eux, et c'est plutôt MicroStrategy, lui, c'est autour des 73 000. Donc, des zones, encore une fois, extrêmement intéressantes. À voir si l'on ira aussi bas. Encore une fois, parce qu'il y a des thèses, et encore une fois, une thèse est fausse tant qu'elle n'est pas, réalisée. Mais j'ai par exemple mon mentor, James Check, qui, lui, ne voit pas que l'on tombe beaucoup plus bas que les 80 000. Puisqu'encore une fois, il y a beaucoup d'acteurs, et surtout, on va le voir juste après, c'est que, hop, je vais vous montrer cela. Alors, peut-être un peu complexe, mais globalement, en reprenant ce graphe, c'est qu'on a quand même un mur acheteur pour l'instant. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller plus bas. Attention, je mets vraiment un gros disclaimer. Mais ce qui est plutôt intéressant, c'est que de voir que depuis justement les 88, et les 92. Vous voyez ces bandes rouges ici. On voit très bien qu'on a des nouveaux investisseurs, donc des short-term holders qui ont massivement, entre guillemets, investi quand même sur ces niveaux-là. Donc, ces niveaux sont quand même rachetés. Il y a une capitulation avérée des détenteurs court-terme, puisque je vais reprendre ce graphe. Alors, pour vous l'expliquer le plus simplement du monde, ce que vous voyez ici, c'est justement tous les BTC qui, par exemple, ont été acquis entre les 110 et le top des 126. Et en rouge, c'est-à-dire que tous ces BTC-là ont été vendus sur les 30 derniers jours. Donc, on a quand même une bonne partie. Donc, il y a à peu près 1,2 million de BTC. Voilà. Sans rentrer dans le détail, mais dites-vous qu'il y en a globalement 20% d'entre eux qui sont juste des transferts entre wallets. Donc, on va partir sur un total de 1 million de Bitcoin sur les 30 derniers jours. Et que sur ces 1 million, il y en a environ 400 000 qui ont été vendus, qui avaient été achetés entre les 110 et les 126. Et regardez ce qui se passe. Alors que pourtant, c'est une zone qu'on n'avait vraiment pas atteinte depuis le mois de mai. Donc, ça veut dire que sur les 5 derniers jours seulement, où on est tombé entre les 88 et les 93, on a eu 400 000 bitcoins qui ont été rachetés par une demande, enfin par ceux qui ont DCA ou autre. Mais donc, il y a quand même une demande qui est là. C'est pas non plus... Alors, peut-être que c'est des fous, peut-être qu'ils achètent maintenant et qu'on va vraiment vers les 50 000, mais potentiellement de se dire, OK, c'est pas non plus la débandade où plus personne ne veut acheter. Et ça, c'est quand même un point qui est intéressant à noter et qui peut donner lieu à cette thèse où, oui, la force vendeuse, elle est quand même là, puisque quand on regarde ici ce graphe-là, on voit très bien qu'il y a de nombreux bitcoins. Vous voyez, en fait, ce gros pâté bleu, c'est les détenteurs long terme qui vendent massivement du BTC, et ce, vraiment depuis la fin septembre, donc ça fait quand même 2 mois maintenant. Et en plus de ça, ici en rose, côté négatif, on voit énormément de capitulation de la part des détenteurs court terme. Donc, c'est-à-dire qu'on a une double pression vendeuse qui est quand même assez énorme. Donc, on va vraiment... On n'est pas du tout sorti du bois. C'est pas parce qu'on a ces achats ici là que l'on voit de beaucoup de BTC qui existent qu'on est vraiment que voilà, on va s'en remettre. Donc du coup, l'objectif, c'est vraiment de se dire, OK, on a toujours de la force acheteuse. On est comparé à 2018-2022 où par contre, on était dans une situation où il y avait vraiment beaucoup plus de capitulation que de force acheteuse. Donc voilà, en fait, c'est vrai qu'il y a ce côté où on a envie de se dire, on est peut-être dans une situation exceptionnelle entre guillemets. On est peut-être dans une situation où ça, bah, potentiellement, comme une partie des analystes ou experts le disent, sur une grosse correction de bull market, ou justement, peut-être que, bah, à l'inverse, on est peut-être sur des acheteurs qui, comme on en avait discuté l'autre coup, c'est peut-être des acheteurs qui s'en foutent complètement, qu'on tombe au 90, au 80, au 70, et qui sont juste là pour des dizaines d'années et qui veulent juste accumuler du BTC à bon prix. Et peut-être que pour eux, bah, sous les 100 000, c'est du très bon prix. Sauf que bah, peut-être qu'on a une pression vendeuse qui est tellement énorme que ça ne suffira pas pour nous maintenir à flot, mais que dans tous les cas, et c'est pour ça que c'est aussi intéressant, c'est que bah, quoi qu'il arrive, en tout cas même avec cette correction de... Alors, je ne sais plus de combien de pourcentage on est, mais cette troisième grosse correction de cycle, on a quand même des acheteurs qui sont là. Et ça, c'est quand même intéressant de le notifier.
Oui, en termes de pourcentage, on venait d'atteindre plus ou moins les moins 30. On a même légèrement dû les dépasser quand on est passé sous les 89 000 dollars. Donc ouais. Voilà, actuellement, on était sur moins 30 bien tassés. Okay. Après, structurellement, moi, ce qui m'embête un petit peu, là aussi, comme je te disais tout à l'heure, c'est la cassure, on va dire, structurelle d'un point de vue analyse technique qui date d'il y a 3 ans. On a fait un vrai grand canal parallèle ascendant qui a duré de novembre 2022 à novembre 2025. Et la perte de la moyenne mobile 50 qui finalement représente à peu de choses près ce que toi t'observes, tu sais, sur les deux moyennes mobiles précédentes, oui, avec la fameuse zone des 100 000 et la fameuse zone des 83 000. Donc finalement, systématiquement, l'on-chain rejoint plus ou moins ce qu'on peut observer d'un point de vue de la psychologie des foules au niveau de l'analyse technique. C'est pas mal de pouvoir le recouper quand même. Je trouve que ça nous apporte un avantage qui est assez important.
Exactement. Et du coup, je pense qu'avant potentiellement d'aborder justement un peu le comportement à adopter, même si évidemment c'est propre à chacun et que je ne connais pas votre historique, votre coût moyen d'achat, etc. sur BTC ou même les alt. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir que, bah, encore une fois, on est sur ce point pivot. Ici, ce que vous voyez, c'est la rotation de capitaux en orange sur BTC, en bleu sur Ether, en vert sur les stablecoins. Et on est vraiment sur ce point, encore une fois, pivot, dans le sens où, bah, au niveau des stablecoins et Ether, on est proche du point zéro, c'est-à-dire il y a autant de sorties que d'entrées de capitaux. Sur BTC, on est encore bien, parce qu'on est encore sur du plus 17 milliards sur une moyenne à 30 jours, ce qui est énorme, ce qui est très loin de ce qu'on avait vécu encore une fois lors des deux dernières grosses corrections de ce cycle. Par contre, ce que je veux mettre un peu en lumière, c'est imaginer que justement on part un peu dans un système, enfin non, plutôt dans un bear market, c'est que on est un peu dans ce même schéma, c'est-à-dire pareil, des capitaux qui globalement sur une moyenne à 30 jours, sur ces trois actifs entre guillemets, diminuent et passent peut-être bientôt en négatif. Ce que justement on va essayer de repérer, c'est de voir si au bout d'un moment, on a en fait par exemple ce qui s'est passé ici, c'est-à-dire ce contraste où cette fois, on avait vraiment des sorties de capitaux autant sur Ether que BTC, mais par contre, on voyait très bien que les investisseurs se dérisquaient un maximum. C'est-à-dire que là, ils profitaient de cette zone-là et des fameux rebonds dont on a parlé tout à l'heure, entre la bande bleue, la bande jaune, la bande bleue, la bande jaune, pour ceux qui s'en souviennent. Par contre, ici, on voyait très bien qu'il y avait un amas monstrueux de stablecoins qui arrivait dans le sens où on voyait que les investisseurs vendaient leurs BTC, leurs ALT, leurs Ether, contre du stablecoin. Là, pour l'instant, ce n'est pas forcément ce qu'on voit. Là, on est plus sur un arrêt global de la liquidité qui arrive sur les stablecoins et sur Ether. Sur BTC, ça se tient encore. Et c'est pour ça, en fait, que voilà, on est encore sur quelque chose, entre guillemets, d'unique, puisqu'on n'a jamais eu ça aussi sur BTC, de voir un prix qui, quand même, a subi ce moins 30%, et pour autant, quand même, beaucoup, beaucoup d'arrivées de capitaux. Donc, vraiment, ce point pivot entre, bah, tout d'un coup, si c'est le consensus vendeur qui gagne, et que on a vraiment plus d'arrivée de capitaux sur BTC, ça se peut que la secousse soit quand même un peu plus forte, et comme tu l'as dit, on passe sous les 80, on passe sur les 70, peut-être les 60, etc. Il faut se rappeler que, et juste pour refaire le parallèle, sur ces zones, je vais le retrouver sûrement, hop, sur ces zones, justement des 50 à 70, à peu près ici, on a le second plus gros cluster historique d'accumulation de BTC, donc ce sera une zone qui forcément sera défendue, que potentiellement on pourra retrouver. Mais globalement, c'est assez intéressant de voir ça et de se dire que voilà, on est dans quelque chose d'assez unique là aussi, et bah, qu'on va être aux premières loges pour vivre ça. Mais dans tous les cas, il faut absolument que l'on soit dans une stratégie de faire attention au niveau dont on parle et dont tu as parlé aussi au niveau technique. Donc c'est bien qu'il y ait une convergence vraiment entre ce qui se passe au niveau du comportement des investisseurs et en plus de ça au niveau technique.
Il faut aussi rappeler que si jamais au cours du bear market on s'arrêtait par miracle à 50-60 000, ça en ferait un des bears les moins atroces qu'on ait connu, puisque ça ferait par rapport au top voilà, entre moins 50 et moins 60%. Donc si un jour on nous redonne du BTC à 50-60, je pense que tant d'un point de vue des particuliers que d'un point de vue des institutions, que d'un point de vue des ETF et tous les acteurs aujourd'hui qui se sont greffés de près ou de loin à cette industrie, voilà, ça sera un prix qui sera relativement acceptable de tout le monde. Est-ce qu'on ne peut pas aller même plus loin, autour de 40 000, etc. Comme d'habitude, on a tendance à édulcorer la réalité et dans les moments de capitulation extrême, on peut toujours aller plus bas. Mais voilà, ça nous donne une médiane qui est tout à fait, on va dire, neutre par rapport à des objectifs de bear market. Et je pense que c'est des prix qui intéresseront pas mal de monde, quand bien même, bah, comme on l'avait vu au cycle précédent, on s'était dit « Ok, Bitcoin ne passera pas sous les 20 000 ». On est allé à 15 000. Bon, ça a fait très, très mal à beaucoup de monde. Et quand on était à 15 000, souviens-toi, tout le monde disait « Ça y est, on va à 10 000 ». Et la suite, on la connaît.
C'est ça, exactement. En fait, parfois, c'est vrai qu'il faut se rappeler que dans tous les cas, on n'a aucune certitude sur ce marché et que globalement, il faut aussi se poser la question du « Ok ». Je reprends l'exemple de l'époque, mais c'est vrai qu'on était à 15 000. Je me souviens qu'on voyait beaucoup les 10-12 000. Et c'est vrai que bon, c'était quand même un moins 30% de plus, donc ce qui était énorme. Mais à la fois, c'est vrai que plutôt que peut-être mettre tout son argent d'un coup sur un BTC et une conviction à dire « moi, j'attends les 10 ou les 12 000 pour tout mettre », et de se dire « mince, ça rebondit à 20, mais c'est pas grave, de toute façon, on va retomber. Mince, ça rebondit à 25, mais c'est pas grave, je crois toujours aux 12 000 », de se dire « ok, peut-être ». On peut aller toujours plus bas, peut-être qu'on peut même remonter, mais du coup, c'est peut-être l'occasion de se dire « Ok, j'ai des convictions. » Maintenant, un investisseur, on va dire, raisonnable et qui a envie d'être rentable par la suite, profitera de ces zones-là. Comme tu l'as dit, si on tombe au 75, c'est une bonne zone d'accumulation. On tombe au 60, c'est une bonne zone d'accumulation. On tombe au 50, c'est une bonne zone. Et tout comme, par exemple, ce fut le cas le plus récemment avec la chute du mois d'avril dernier, où on est passé du coup de en gros 100 000 aux 75 000, moi, personnellement, j'avais acheté les 89, les 86, les 79, les 75. J'avais encore une cartouche sur les 72. Mais globalement, si j'avais attendu les 72, bah, j'aurais manqué le train. Et au final, j'aurais manqué un plus 60% sur BTC en me disant ah, « c'est pas grave, on remonte aux 80 000, on va retomber. Ah, on est aux 90, mais je sais très bien qu'on va retomber. » Et au final, on loupe le train. Donc, le but, c'est vraiment d'être, comme tu l'as dit tout au début, être prêt à encaisser des pertes, on va dire, latentes, parce qu'on va pas les… on va pas les encaisser, ces pertes-là. Mais se dire que dans tous les cas, si on a cette conviction de BTC, va retourner aux 120 un jour, va peut-être aller aux 150, aux 200 000 et plus dans quelques années, qu'on achète aux 75 ou aux 55 ou aux 60, dans tous les cas, le but, c'est de l'avoir fait et de ne pas regretter en fait, d'avoir attendu le bottom exact, pile poil, que tout le monde, que le consensus trouvera à ce moment-là, ça c'est clair.
Oui, puis c'est un truc extrêmement important que tu soulèves là, c'est de toujours se fixer des zones et pas des prix précis, parce que sur les extrêmes, que ça soit quand on était à 15 000 et que tout le monde disait « ok, on va aller à 12 », ou quand on est à 125, 126 sur Bitcoin et que tout le monde dit « j'attends 130 000 ou 132 000 pour prendre mes profits », c'est catastrophique de réagir comme ça et de, on va dire, par la suite, se laisser complètement pulvériser par le marché. Donc, comme d'habitude, toujours avoir une zone de prix. Et je me souviens ce qui s'était passé justement quand on était à 15 000. Comme beaucoup, j'étais impacté psychologiquement parce que pour la première fois, on passait sous l'ancienne ATH des 20 000, etc. C'était une grande nouveauté. Enfin, on était dans le mal de Terra, de FTX. On était FTX, au plus bas, hein, novembre 2022. Je peux vous garantir que peu importe que vous ayez un petit, moyen, grand wallet, là, il n'y a personne qui l'a ramené. On avait l'impression que l'industrie allait finir à zéro. Donc, c'était assez catastrophique. On pensait que tous les échangeurs centralisés allaient sauter. Oui. Bref, c'était vraiment un moment très, très dur. Et donc, j'en étais venu à cette réflexion et c'est ce que j'avais dit à ce moment précis aux gens sur la chaîne. Ok, on est à 15 000, ok, on est passé sous les 20 000, ok, le support suivant, il est à 10, 11, 12, 13, je crois qu'il y avait 13,5 aussi du cycle précédent qui était une zone très importante. L'asymétrie du risque à ce moment précis de commencer un DCA, même si on fait 15 000 à 13 000 ou 15 000 à 12 000, elle était monumentale en notre faveur si on estimait que ne serait-ce qu'on revenait au point haut du cycle précédent, c'est-à-dire 70. Et encore mieux si on visait 100 000 et plus, ce qui s'est passé par la suite. Comme d'habitude, on n'avait strictement aucune certitude à cette époque. Et d'ailleurs, là aussi, je l'ai dit et je l'assume, quand on était à 15 000, j'ai dit plusieurs fois, si on revoit les 70 000, ça sera déjà un miracle sur ce cycle. Et c'est quelque chose qu'on a vu, certes, par la suite, mais j'étais tellement pessimiste quand on était à 15 que déjà les 70, pour moi, ça représentait presque, tu vois, l'objectif maximal du cycle qu'on a connu là. Donc, comme d'habitude, essayez dans les moments les plus durs de vous poser avec un papier, avec un stylo, de déconnecter votre cerveau émotionnel et de vous dire qu'est-ce que je risque pour qu'est-ce que je gagne. Et quand on était à 15 000, peu importe qu'on retourne à 12 ou que sais-je, le risque, il était totalement en votre faveur. Tout comme, on l'a répété un nombre incalculable de fois, quand on est à 125, quand bien même on a des rêves de 150 sur ce cycle, le risque est totalement en notre défaveur. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer actuellement, tout simplement.
C'est ça. C'est ça, mais c'est vrai que c'est pas évident parce qu'encore une fois, on a bah en fonction de la typologie d'investisseur, c'est vrai que celui qui a investi à 15, enfin allez à 20 000 ou même à 30 000 et qui vend à 120 ou 130, comme tu le dis, je pense que oui, là, comme tu l'as dit, le risque, il est clairement en sa défaveur, mais un investisseur qui, oui, a investi, je sais pas, sur les 100 000 et qui attendait les 150 pour avoir un plus 50%, bah c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que. Voilà, en fonction des niveaux que tu as cités au niveau technique ou même au niveau on-chain, je pense qu'on peut très bien s'en sortir et globalement, encore une fois, comme je l'ai dit sur ma chaîne ce dimanche, moi je suis encore rentable sur ce cycle largement justement grâce à tous ces outils et j'espère que dans tous les cas, on arrive via ce que l'on fait en duo, ce que tu fais en solo et moi de mon côté, à vous aider aussi à vraiment y voir plus clair et à prendre des bonnes décisions d'investissement, encore une fois. Tant que vous êtes rentable, peu importe la méthode, c'est déjà quelque chose de très fort. Donc voilà, c'est le principal.
Bon, eh bien, mon cher Adrien, c'était top comme d'habitude. J'espère qu'on vous aura donné suffisamment de granularité pour prendre au mieux vos décisions. On est de plus en plus sur un marché qui est mûr et sur des analyses qui le sont tout autant. Donc, on espère que petit à petit, ça vous permet à la fois de ne pas paniquer, de ne pas prendre de décisions hâtives en vendant un jour et en voulant vous racheter le lendemain et de vous projeter sur le long terme. Puisque, rappelons-le, Bitcoin ne déroge pas à la règle de par sa volatilité. C'est d'ailleurs un des fondamentaux qui fait que bah, c'est la beauté de cet actif. Il a tendance tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans comme ça à nous offrir des opportunités assez monstrueuses parfois au niveau des achats. Et il n'y a que ceux qui subsistent et persistent suffisamment longtemps de 2 ans, 2 ans, de 4 ans, 4 ans qui envoient toute la beauté par la suite au-delà des aspects, on va dire, purement aussi idéologiques ou philosophiques que peuvent avoir les crypto-monnaies et surtout Bitcoin et sa blockchain.
Pour le mois de la fin, ça me fait penser à la pub sur le loto ou l'euro million, je ne sais plus qui disait justement pour... En fait, il n'y a que ceux qui jouent qui gagnent. Et en fait, dans un cycle baissier, bah, ça va être ça aussi. Donc, c'est vrai que peu importe, entre guillemets, ce qu'on l'on peut subir, ça va être dans les moments les plus durs pour nous en tant qu'investisseurs qu'il faudra justement être présent et se dire qu'on va être les prochains futurs chanceux d'avoir eu un BTC à, que sais-je, comme tu l'as dit, 40, 50, 60, 70 000. Et peut-être que dans 4 ans, on en sera très content. Donc, ça va être l'occasion de bien rester cette fois sur ce cycle et de ne pas se faire avoir à quitter le marché parce qu'il souhaite justement que l'on parte et qu'on soit dégoûté de ne pas avoir pu investir sur des niveaux dont on rêverait de voir aujourd'hui, en fait. Ça, c'est clair.
Yes, on se dit à dans 15 jours et on vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao.
Allez, à plus. Salut tout le monde.